Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'apéro des papas manchots. Alors avant de commencer l'épisode, qui va être un épisode spécial, je voulais juste introduire un petit mot. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, 4 mois. En fait, si, on a fait un épisode, mais on avait décidé de ne pas l'enregistrer. On avait enfin fait un petit épisode avec Deka. On l'a pas diffusé parce que la qualité audio était pas suffisante. Enfin, c'était loupé, on voulait pas publier. Mais dans cet épisode, on passait un petit message pour dire que voilà, l'année 2024 était un peu difficile pour nous dans l'équipe de l'apéro des papas manchots. Ça commençait à devenir difficile de se retrouver, d'enregistrer pour nous tous. Ça veut pas dire que ça va être la mort du podcast, on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est sûr, c'est qu'en 2024, ça va être dur pour nous de faire un épisode tous les mois. Voilà. On espère pouvoir continuer en 2025, mais voilà, juste cette année, c'est un peu difficile pour nous tous, avec les changements professionnels et tout ça, voilà, ça commence à devenir dur, puis surtout que c'est des heures d'enregistrement qui sont pas faciles du fait que je sois au Québec. Et qu'il y a un petit 6-7 heures de décalage horaire. Voilà. On voulait aussi passer un petit coucou spécial à Fabrice. Fabrice, qui est un ancien co-animateur, pardon, et il avait parlé de nous dans son streetcast, voilà, de temps en temps, il nous écoutait encore. Donc voilà, si tu nous écoutes encore, nous aussi, on te fait un petit coucou. Voilà. Donc maintenant on va repasser un petit peu, ça c'était la partie annonce, donc maintenant on va repasser un petit peu sur la partie... c'est pas un épisode de news, rien du tout. C'est une conférence à laquelle j'ai participé qui s'appelle le Hackfest au Québec. Au début je voulais attendre que les épisodes soient diffusés sur YouTube pour récupérer, avoir une meilleure piste d'enregistrement audio. Mais bon, voilà, là, du coup, j'ai enregistré avec mon téléphone dans une conférence, donc dans une salle, une conférence. Donc, parfois, il y aura des petits désagréments de bruit. Je suis désolé, j'ai essayé de rattraper le maximum au mixage, mais voilà, c'est quand il y a du bruit, enfin, quand il y a un peu de brouhaha, il y a un peu de brouhaha, je suis désolé. Vous allez voir, c'est l'histoire d'une entreprise québécoise qui raconte qui s'est fait pirater et puis qui nous raconte un peu le dark web et tout ça. Donc, il n'y aura pas les diaporamas, il n'y a pas de diapo parce qu'on est en podcast, mais c'est une conférence qui s'écoute, enfin qui se comprend par elle-même. Peut-être des fois ils parleront de choses sur le diaporama, genre ils diront tiens ici c'est tous les points de vente de Bitcoin aux alentours de Québec, blablabla. Bon bah vous verrez pas, mais ça gêne en rien la compréhension. Mais honnêtement, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Donc, voilà, je voulais le partager avec vous. C'est un peu sur le thème des Jedi, côté noir, côté du bon côté, du mauvais côté de la force, des hackers. Voilà. Je vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier l'épisode. J'espère que vous l'appréciez autant que moi je l'ai apprécié. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis au prochain épisode.
Meilleur le son.
Bonjour.
Salut.
Bonjour, c'est Asit. Merci beaucoup de nous accueillir si chaleureusement. Ça fait du bien de vous voir. Je me présente Simon David Williams et
Audrey Schenk.
On va commencer avec notre formation d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le côté obscur de la force. Donc, avant, j'étais un Jedi, quelqu'un des technologies de l'information, et puis je représentais des gens d'une entreprise qui s'appelle Groupe ISM. Et j'ai découvert beaucoup de choses, puis je vais vous raconter l'histoire de ce que j'ai découvert, qui m'a décidé, fait en sorte que je me décide d'être un Sith. Donc, le côté obscur, et surtout le côté payant des technologies de l'information. Le 27 octobre 2017, j'étais président de Groupe ISM. J'ai reçu un appel d'un technicien niveau 3 chez Groupe ISM qui s'appelle Pierre-Luc. Je ne sais pas si tu es dans la salle, Pierre-Luc, je te dis bonjour si tu l'es. Et puis, il m'appelle pour me dire, « Simon, mon Outlook, il est lent. » Je dis, « OK, pourquoi tu m'appelles pour ça? » Ben, j'ai checké dans ma boîte aux lettres d'Outlook, puis j'ai une boîte aux lettres additionnelle avec ton nom dessus. Fait que j'ai dit, « OK. » T'as une mailbox additionnelle avec mes courriels? Il dit oui. Je dis, ah, ben là, ferme ça, c'est normal que ça soit lent. En TI, je reçois 200-300 courriels par jour, puis non, je les classe pas. Fait que je comprends. Ferme la boîte aux lettres, merci, bonsoir. Je raccroche l'appel, je fais 3 pas. Puis là, je fais comme, attends une minute. C'est pas normal que Pierre-Luc ait accès à ma mailbox. Qu'est-ce qui se passe? Le poêle me lève ses bras un peu. Je vais l'appeler. Je rappelle Pierre-Luc. Je dis, hey, Pierre, c'est quoi? Comment ça, t'as accès à ma mailbox? Il dit, ouais, justement, je suis en train de checker ça. Je me suis donné accès à ta mailbox le 23 octobre 2017 à 3h du matin. J'ai dit, tabarouette, t'es travaillant. Qu'est-ce que tu faisais de bas à 3h du matin? Il dit, non, je dormais à 3h du matin. Ah, OK. Ben, je pose la question, Pierre-Luc, c'est pas toi, là. Il dit, non. OK. Fait que je dis, pour le fun, qu'est-ce que t'as fait d'autre à 3h du matin, le 23 octobre? Fait que là, il dit, ben, je me suis connecté à la base de données de mots de passe. Donc, on est une entreprise en TI, faut qu'on comprenne qu'on supporte beaucoup de clients à l'époque, et on gère tous les accès, les logins, les mots de passe, les adresses IP, des noms de domaine, des serveurs, des switches, des routeurs, j'ai pas besoin d'aller plus vite, vous comprenez, à peu près 50 000 entrées dans une base de données pour gérer ces mots de passe-là. Fait que si je me suis connecté à cette base de données-là, j'ai fait un backup. Fait que je dis, ah, un backup, c'est cool, c'est bon de faire des backups. Toujours partant de faire ça. Fait que, super, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je l'ai copié. OK, où ça? C'est une adresse IP de la Chine. OK, mais où en Chine? Il dit, m'allez checker ça. Il dit, ah, oh, c'est une adresse IP Tor. Moi, je savais pas c'était quoi Tor en 2017, là. Je dis, c'est quoi ça, Tor? Il dit, Simon, c'est le Dark Web. Fait qu'au final, la totalité des 50 000 entrées, des logins, des mots de passe de tous les clients de Groupe ISM, incluant Groupe ISM, s'est trouvée disponible sur le Dark Web. Le plus grand cybercrime majeur au Canada à l'époque, et c'est nous la victime. Fait que j'ai fait ma première crise d'angoisse. J'ai pris 4 Tylenol, me suis couché dans le gazon, puis j'ai regardé le ciel. Il y a des gens dans la salle qui étaient là avec moi pendant cette époque-là. Fait que je sais pas si vous saviez toute l'histoire, mais ça m'a pris quand même 1 heure avant de me remettre de cette petite crise d'angoisse-là. Puis je suis retourné au bureau. Puis là, j'ai été voir qu'est-ce que c'était le Dark Web. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager la possibilité et la compréhension du choix que j'ai fait de devenir un site. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais arrivé à 11h sur place. J'ai commencé à googler un peu, parce que le clicker, il est ici. Première chose que j'ai découvert, c'est que le trafic régulier d'Internet représente environ 4% de toute l'activité. Tu sais, ce qu'on fait sur Google, Instagram, Facebook, Pornhub, ben ça, c'est juste 4%. Ensuite de ça, j'étais voir les statistiques, puis on parle que 90% du trafic d'Internet, c'est le cloud privé. Ben, pas le cloud privé, mais le deep web. Tout ce qui n'est pas indexé. Tout ce qu'on travaille dedans, nous, les technologies de l'information. Les courriels, les serveurs cloud privé, Azure, et ainsi de suite. Et le dark web représente quand même 6% du trafic total. Fait qu'il y a beaucoup d'activités sur le dark web. C'est pas rien. Je dis OK. Deuxième affaire que j'ai été voir, c'est qui c'est qui en arrière du dark web? Fait que j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Roger Dingledine qui a décidé de créer le réseau Tor à peu près au milieu des années 90. Il a développé ça. Puis lui, il a une cause à cœur. La cause qu'il a à cœur, c'est l'anonymat sur Internet, tout simplement. C'est sa cause. Il est tanné des Facebook puis des Google qui enregistrent toutes nos données puis après ça, qu'on les revendre ou bien qu'ils revendent à d'autres personnes pour nous closer des affaires. Lui, il pense qu'on est capable d'être anonyme puis naviguer correctement sur Internet sans que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait, comme sur Pornhub. Fait qu'il dit, OK, moi c'est ça ma cause, il y a plein de gens autour de lui qui ont travaillé dans cette cause-là, donc il nous a rendu le réseau Tor disponible à travers une OBNL, The Onion Ring. Une OBNL. Wow! L'autre chose que j'ai appris, j'ai dit, je vais aller voir qui c'est qui finance cette OBNL-là. Je pensais que ça allait être des Russes puis la mafia. Ben non, c'est Ford, Google, DARPA et le United States Department of State. Fait que c'est assez sérieux. Fait que là, ce que j'ai découvert ce soir-là, c'est que finalement, Dark Web, c'est pas si dark que ça. C'est peut-être juste le nom marketing qui fait en sorte que ce soit dark, mais c'est un peu le choix de ce qu'on fait avec. Ensuite de ça, j'étais voir l'historique. Comme je disais, à peu près dans le milieu des années 95, ça a été créé. Ils ont lancé la première version en 2002. 2004, seconde version plus sécuritaire. 2006, l'OBNL. 2014, financement public massif. En gros, vous le savez déjà, les gens ici dans la salle, vous savez que le trafic est encrypté sur le dark web automatiquement, contrairement à la plupart du trafic qu'on utilise sur le web régulier. Ensuite de ça, on masque les adresses IP, ça bloque les trackers, ça efface l'historique, ça fait même bloquer le fingerprinting. Dans les 44 cybercrimes majeurs que j'ai participé en tant que hacker site, toutes les fois qu'il y avait une adresse IP du dark web et que la police est arrivée sur cette adresse IP-là, personne n'a pu se faire justice, à moins qu'on fasse une erreur. Comment ça fonctionne? Vous le savez sûrement, Entry Node, Middle Node, Exit Node, chaque node fait en sorte d'effacer le trafic entrant et sortant de la provenance de l'adresse IP, c'est 100% anonyme et sécuritaire. Ceci dit, ce que j'ai appris aussi, là, il était rendu peut-être 1h du matin dans mon histoire, c'est que moi je pensais quand on voyait le dark web que j'allais voir une fenêtre de commande, une fenêtre de terminal, puis quelque chose d'assez compliqué. Fait que pour ceux qui ont été dans la salle, vous le savez tous, vous connaissez Google Chrome, qui est assez traditionnel, avec des onglets, des tables, où on peut rentrer des noms de domaine.com. Ben, voici le dark web pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. C'est la même chose. C'est des onglets avec un outil de recherche à l'intérieur. Donc, assez facile à utiliser. Bref, même ma grand-mère pourrait faire du dark web. Par contre, il y a toujours un côté obscur à ce qu'on fait sur le dark web. Il y a des bonnes raisons d'utiliser le dark web. On pense, exemple, à un journaliste qui est en Russie, que vous savez que l'Internet est contrôlé. Il va envoyer un article de journal aux États-Unis. Ben, il va passer par le dark web pour envoyer son article. Je sais même que certains agents du FBI utilisent le dark web pour envoyer de l'information directement au siège social par le dark web pour être sécurisé. Donc, il y a des bonnes façons d'utiliser le dark web, mais il y a les mauvaises, qui représentent le côté site, qui est le côté qu'on a choisi de notre côté. Donc, au final, on peut voir sur le dark web, sur les groupes de pirates, des données privées. Comme exemple qu'on a ici, celle de Bombardier, qu'on va parler un peu plus tard. On peut aller chercher de l'information privée. Vous savez que l'information privée se vend quand même relativement cher sur le dark web, entre 12 et 25 $ canadiens. On va en parler aussi plus tard. Sinon, on peut publier les informations des entreprises privées, puis ça, c'est très, très payant de demander une rançon en échange des données ou la publication de ces données-là, qu'on va voir aussi un peu plus tard. Quand on infiltre un système à distance en tant que hacker, on doit rester présent au minimum 6 mois en général. Donc, pourquoi est-ce les 6 mois? Pour être sûr de collecter le maximum de logs de clavier pendant ces 6 mois-là, des logins et les mots de passe des accès personnels, dans le fond des employés, des présidents, des administrateurs ou des gars de TI pour élever nos privilèges.
Ou les filles de TI.
Oui, c'est vrai. Merci. Fait qu'au final, on est présent dans le système 6 mois, on collecte les données privées, on copie des données pendant ces 6 mois-là, on désactive naturellement le backup, on s'assure qu'il n'y ait pas d'alerte qui se rende au gars de TI si les backups ne fonctionnent pas, puis c'est nous autres qui vont recevoir tout ça. C'est un peu comment que ça fonctionne dans la plupart des cybercrimes qu'on a réalisés ici au Québec, du moins. Fait que présentement, j'ai fait le choix d'être un site, j'ai fait le choix de devenir un hacker et je demande des rançons à des entreprises au Québec. Fait que sans plus tarder,
dans les présentations précédentes, il y en a qui ont parlé du côté humain aussi, de quand on parle de piratage, de hacking et tout ça. Mais en tant que tel, c'est quoi un hacker? Est-ce que c'est nécessairement un gars dans son sous-sol avec un hoodie qui travaille dans le noir? Pas nécessairement. Fait que je vais vous parler entre autres des groupes de hackers et des scripts kiddies. Donc, si je parle des scripts kiddies, en fait, c'est dans le fond un hacker un peu de fond de sous-sol justement, mais qui utilise des scripts, des outils déjà prédéfinis. Puis, au niveau du persona, là, du personnage, là, c'est souvent quelqu'un qui est étrangement pédagogue. Donc, ça pourrait être un enseignant de certains établissements collégiaux ou universitaires. Puis, ces gens-là, quand ils se font pogner, on sait que c'est rare, mais quand ils se font pogner, ils aiment ça show-off, ils aiment ça donner un show, ils aiment ça expliquer comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Fait que ça fait partie du personnage. Puis dans leur spécialité, là, ça peut être très varié. Là. On parle de data leak, on parle de webcam leak, usurpation d'identité. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis, un peu comme moi, c'est des grands yeux. Fait que c'est du monde qui aime jaser. Fait que si un jour vous avez à collaborer, disons, avec un script qui dit, attendez-vous à avoir la gueule sèche. Sinon, au niveau des groupes, on va en parler aussi un peu plus tard. Il y en a plusieurs qui sont très actifs là, sur le marché, si je peux dire. On s'accroche dans Clicker. Voilà. Les groupes de hackers, ils veulent votre bien. C'est ça leur job, c'est ça leur personnage. Dans le fond, ils vous rendent service en trouvant les failles dans vos systèmes. Donc, tant que tu payes, il n'y en aura pas de trouble. Mais si tu ne payes pas ou que tu essaies de les fourrer, attends-toi à des conséquences lourdes. Puis en passant, les groupes de hackers recrutent aussi. T'sais, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On parle justement qu'on manque de personnel. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais dans le monde du cybercrime, en fait, il y a du recrutement qui se donne aussi. Et ça peut être très, très, très lucratif. Donc, les groupes de hackers sont à l'écoute de tes besoins. Donc, c'est du bon monde, ils vont t'éviter des ennuis. C'est, dans le fond, ton argent pour la tranquillité d'esprit, mais fais-les pas chier. Alors, je parlais de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que si vous avez, s'il y a des parents dans la salle, si vous avez des ados qui cherchent un job, super facile, ils peuvent faire partie de groupes de hackers connus ou non. En fait, la majorité du temps, là, comme ici, on a un screenshot de Avast Locker, si tu veux faire partie de ce groupe-là, ils se prennent seulement 20% de commission, sont prêts à te fournir tous les outils, du staff en backup si jamais tu veux dormir la nuit à un moment donné. Fait que dans le fond, c'est super lucratif, puis c'est super alléchant. Fait que s'il y en a qui désirent se convertir, c'est assez facile, allez sur le dark web, puis enrôlez-vous dans un des groupes de piratage courant. C'est sûr que moi, de mon côté, comme je suis site également, je vais vous recommander fortement de passer du côté sombre de la chose. Alors, quand je parlais des groupes de hackers, il y en a plusieurs qui sont actifs. Puis des fois, on a tendance à penser que c'est la Chine, la Russie et tout ça, mais ces groupes de hackers-là, ils peuvent avoir des individus partout à travers le monde, même au Québec. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable ou la tête dans l'autruche, comme dirait Gérard Deltel. Donc, dans les groupes courants et connus, on parle de RansomX, on parle de Lockbit, qui est un des plus gros actuellement, Black Cat, Club, Avast Locker, name it, il y en a de trollés. On parlait de 154, si je me rappelle bien, 155?
Ce matin, 154, oui.
Donc, une industrie en pleine expansion. Qu'est-ce qu'on trouve sur le dark web? Des affaires de fun. De la poudre, des guns, du trafic humain. Quoi d'autre? Hey, vous êtes gênés en tabarouette. Pédophilie, des pilules.
Data.
Identité. Quoi d'autre? J'ai pas entendu.
Carte de crédit.
Carte de crédit.
Capital humain.
Capital humain. Fait que toutes les affaires de fun, finalement. Fait qu'on comprend que oui, il y a des choses, disons, legit qu'on peut trouver sur le dark web. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui fait un peu plus de trou. Fait qu'on, si on regarde ici, on peut facilement commander des guns. C'est pas si cher que ça. Comme là, ici, si on prend la capture présente, si je me rappelle bien, là, c'est autour de 600-650 euros. Fait que c'est quand même pas cher payé. Sinon, on a parlé de fausses cartes de crédit, des cartes de crédit volées, on a parlé aussi d'identité. Puis avant que je passe à la prochaine slide, selon vous autres, là, d'avoir une identité, là, homme, femme, peu importe, ça peut valoir combien? Oh,
50.
Une identité?
50.
20 $ ici.
20 $ Qui dit mieux? Est-ce qu'on fait des enchères? 20
$
20 $
Il y a de l'inflation, par exemple.
Fait qu'on passe de 20 $ à 5 000, j'aime ça. Donc, auparavant, une identité pour une femme plus vieille, je ne sais pas si je suis dans cette catégorie-là, je vous laisse en juger. Avant sa 12 piastres, pandémie oblige, on est rendu à 25. Fait que pour 25$ canadiens, tu peux te ramasser une identité demain. On s'entend que c'est hot. Fait que si on voit une capture d'écran d'un des groupes de hackers aussi pour quand dans le fond il y a de l'exfiltration de données, là on, c'est sûr qu'on va peut-être glisser un petit mot rapide tantôt sur Collège Montmorency, un collège privé pas si privé. Mais tout ça pour dire que je pense que Simon va en parler tantôt aussi, mais quand on publie dans le fond des données exfiltrées sur le dark web, il y a quelques possibilités en fait. Donc quand c'est en rouge, donc la rançon n'est pas payée, il y a un timer généralement pour dire bon ben il te reste 2 jours 56 minutes pour payer la rançon puis récupérer tes données et qu'on les enlève de notre site internet. Sinon, quand c'est vert, t'es dans le marde, les données sont publiques. N'importe qui y a accès en se connectant sur le dark web. Puis, il y en a qui vont aussi aller plus loin que ça là, dans les différents groupes de hackers, selon comment la transaction ou comment le délai avec les breach codes et tout ça a été géré. Fait que là, c'est bien beau. On dit « Hey, c'est le fun, on commande de la poudre, des pelules, des guns, tout le kit sur le dark web, mais après ça, tu ships ça comment, tout ces belles choses-là? » Fait qu'un petit truc, premièrement, on deal ça avec des bitcoins, fait que sors pas ta Visa Bonnie Dollar Desjardins, là, c'est pas le même que ça marche. De toute façon, je te le conseillerais pas. Dans le fond, la façon de procéder, c'est de faire livrer ton colis chez un voisin qui est au bureau, qui est en présentiel. Fait que ça te permet de vérifier là, quand la livraison arrive. Tu fais pas livrer ça chez vous, donc tu te compromets pas. Puis quand UPS, Bureau et tout ça sont passés, ils ont droppé le colis, ben tu sournoisement vas chercher ton colis, l'affaire est ketchup. Puis ça, des fois, il y en a qui vont penser que les bitcoins, c'est pas assez mainstream, c'est encore pas tellement courant. Et moi, je vous ai sorti la map là, du coin de Lévis, Québec et compagnie. Tout ça ici représente des guichets bitcoin où est-ce que tu peux aller effectuer des transactions puis remplir ton wallet de bitcoin. Fait que pour ceux qui pensent que c'est pas courant ou que c'est compliqué, tu peux aller chez SO, tu peux aller chez Couchetard, tu peux aller presque n'importe où, même dans des régions plus reculées, vais-je dire. Puis des guichets Bitcoin, il y en a un peu partout. Les haches! On en a parlé tantôt, je pense, dans la présentation d'Andréane. Il y en a qui vont se fier à quand ils parlent d'exfiltration de données, ils vont dire « Ouais, mais mon mot de passe est encrypté, on voit juste le hash. » Je vais être bien honnête avec vous autres, m'en calisse, parce que la plupart des hash, tu peux les décrypter facilement. Tu n'as même pas besoin d'outils super spécialisés. Dans le fond, tu peux te rendre sur ton navigateur Internet courant, tu vas sur crackstation.net, tu pognes un hash que tu as trouvé sur le dark web. La plupart du temps, tu vas trouver une liste de hash. Puis quand tu sacs ça dans l'outil, après avoir fait les 15 clics sur l'autobus pour être sûr que tu n'es pas un robot, suite à ça, tu vas être en mesure de décrypter facilement le mot de passe, comme on l'a vu ici, qu'on a fait avec un hash dans le fond d'une compagnie hôtelière. Est-ce international? C'est assez répandu?
C'est gros.
C'est B. Fait que vous le savez, tu sais, moi, ça fait 16 ans que je suis du côté obscur, que je suis en TI. Les cyberattaques sont de plus en plus médiatisées. Il était temps, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Fait que pour des scripts qui disent qu'ils veulent show off, ben c'est le fun. Pour les groupes de hackers, c'est le fun aussi. Fait que si on parle de cyberattaques, ben là, on peut penser à Sobeys, on peut penser à Rhinox, on peut penser à Bombardier, qu'on va reparler tantôt. Notre fameux collège privé, pas si privé, Montmorency, Suncor. Ben, tu sais, là, on entend de plus en plus parler. Mais c'est qui les suivants? Ça, Simon, je pense que tu voulais nous parler au niveau d'Akira.
Ouais, mais présentement, tu sais, normalement, c'est l'Upbit le plus gros groupe en moyenne. Mais dernièrement, au Québec, à cause d'une faille de Cisco AnyConnect, j'ai eu 3 cybercrimes dans les 3 dernières semaines. C'était du groupe Akira qui profite de la faille de Cisco AnyConnect. C'est simple, un Cisco AnyConnect pas patché. Akira rentre dedans, puis c'est spécifiquement le Québec, actuellement, pendant que je vous parle. Je vais juste donner un petit update là, des potins actuels de nos autres groupes là, avec lesquels on connaît.
Donc, qui est la prochaine compagnie qu'on va parler, qui a été médiatisée, puis qui a du croustillant? Aimez-vous ça, le croustillant? On en jase, vas-y, Simon.
Air Canada! Vous en avez entendu parler sûrement récemment. Ils se sont fait pirater, puis vous allez... Moi, j'adore l'histoire. Puis malheureusement, on n'avait pas assez de rapidité Wi-Fi d'hôtel pour télécharger toutes les 210 gigs de données, malheureusement. Donc, on n'a pas toutes les données, mais on a le post. On va regarder ça. Premièrement, c'est quel groupe? Bien Liam. Pas un groupe qu'on entend parler souvent. Pas très populaire. Il est quand même pas dans le top 10 des groupes de hackers présentement. Mais il a quand même tombé sur quelque chose de gros qui est Air Canada. Air Canada, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont comme données? Ils ont des bases de données SQL, ils ont les privés des employés. Ils ont, en tout cas, je vais aller dans le croissant un peu plus gros pour que vous puissiez le voir à distance. Vous le voyez très bien, c'est super ça. Fait que vous avez les systèmes d'opération et techniques de 2008 à 2023. Vous avez les informations techniques et les problèmes de sécurité de la compagnie dans le package. Vous avez les employés personal data comme les employés et des documents confidentiels. Fait que si ça vous tente, le lien est disponible. Vous allez juste m'appuyer sur LinkedIn. Je vais vous envoyer le lien de la présentation puis le lien de Bien Liam si vous voulez voir les données. Ce que j'ai trouvé drôle par contre d'Air Canada, c'est la suivante. Air Canada System briefly breached customer info and flight ops unaffected. Donc, ils ont dit, on était breaché, mais ça n'a rien arrêté, fait qu'on est correct. C'est un peu ça le message. Là. Ça, c'est CTV qui dit ça en passant. Fait que là, tu dis, OK, je vais aller voir le contre-coup de ça. Puis là, le groupe de hackers dit, en fond, je vais vous traduire, je vais vous dire vite, vite, on a pogné les données, cliquez ici pour les télécharger. C'est un peu ça. Mais là, ils disent, on ne comprend pas une affaire. Ils disent que les opérations n'ont pas été affectées, mais il y a une loi appliquée. C'est un breach. Tu es obligé de considérer ça comme une scène de crime. Tu es obligé d'arrêter les opérations. Puis l'industrie de l'aviation est encore pire. Il faut qu'ils arrêtent les applications qui ont été touchées par le breach de données. Eux autres le savent. Nous, on le doute, mais ils ne l'ont pas fait. Puis publiquement, ils n'ont pas arrêté les opérations. Donc, ils se retrouvent avec des données privées. Puis tout ce qu'il faut pour faire qu'est-ce qu'ils veulent avec Air Canada présentement. Fait qu'allez télécharger puis exposer ça si ça vous tente, si vous êtes du côté Jedi. Sinon, si vous êtes du côté site, gardez toutes les informations et revendez-les sur le Dark Web. Fait qu'au final, ça ressemble à ça, un peu spécial. Et le communiqué d'Air Canada est le suivant. Puis j'en reviens pas qu'ils le disent publiquement. Là. Un groupe non autorisé a obtenu de façon limitée accès à des choses internes d'Air Canada, puis peut-être un petit peu d'informations personnelles de certains employés. Mais inquiétez-vous pas, là! Ça n'a pas arrêté les opérations. Mais tabarouette, ils devraient les arrêter. C'est ça qu'ils devraient faire. C'est plate à dire, mais pour comprendre, sécuriser, analyser et faire l'enquête, et surtout nous protéger des problèmes de sécurité qu'il y avait chez Air Canada, qui sont maintenant connus du monde entier, ils ne le font pas. Mais là, nous autres, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on peut revendre les données. Pour ceux qui ne connaissent pas RansomX, c'est un parmi tant d'autres. Il n'est même pas dans les top 10, je le vois personnellement. Mais la raison pourquoi je l'aime beaucoup, ce groupe-là, c'est à cause de Bombardier. Bombardier, c'est une compagnie qui tout le temps était un cœur québécois, vous le savez. C'est à Valco, j'ai été visiter l'usine moi-même. Puis, j'adore beaucoup ce qu'ils font. Ils font des skidoo, des skidoo, puis ils font aussi des spiders.
C'est-tu là que je fais ma joke? Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour?
Yeah! Fait que, nos collègues de RansomX, eux autres, ils se sont fâchés dans le cadre du cybercrime. Donc, vous le savez, le hacker est présent 6 mois dans le système, il va pénétrer de façon latérale le plus possible dans l'environnement informatique. Il va faire un keylog de 6 mois de tous les claviers de téléphone ou bien d'ordinateur, la tactique habituelle que tout le monde ici dans la salle connaît. Sauf que quand il est arrivé le temps d'encrypter le parc informatique puis de demander la rançon, la négociatrice en charge, et je sais qu'elle n'est pas dans... non, elle n'est pas là. La négociatrice en charge dans le dossier a vraiment fait attendre le groupe de hackers longtemps. Ça les a fâchés. Fait qu'en général, quand on ne paye pas la rançon, naturellement, les données sont publiées sur le Dark Web, la totalité de l'entreprise, les permis de conduire, les ci, les ça, que vous connaissez, que vous pouvez accéder. En passant, tous les liens sont accessibles. Vous avez juste à me demander la présentation sur LinkedIn si jamais vous n'avez pas pris en photo tous les liens. Ensuite de ça, non seulement ça, vu qu'ils étaient fâchés que la négociation a duré longtemps, je me rappelle même que les gens avaient dit que c'était long de transférer X millions de dollars. Fait que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont acheté du temps avec un broker qui faisait le transfert en Bitcoin, de ci, de ça. Que ça les a fâchés, qu'ils ont fait quelque chose d'inhabituel. En général, les keylogs des 6 mois clavier, ils ne publient pas, mais là, ils se sont fâchés, ils ont créé un post bonus content et ils ont donné accès à la totalité des 6 mois de log de clavier des employés de BRP. Ce qui est le fun dans le cas de BRP, c'est, vous ne le voyez peut-être pas en arrière, là, mais c'est pas brp.com et brp.ca, là. C'est Hotmail, c'est Gmail, c'est des comptes Pornhub Premium, en passant les mots de passe sont encore actifs, là, et des comptes Netflix. Fait que c'est le temps de sortir vos cellulaires, prenez des photos, si vous ne voulez pas y aller sur Dark Web, sinon allez-y. Ça pour dire que, pourquoi, dans le fond, que les employés, ces mots de passe-là sont encore actifs? C'est super simple, j'ai vu le communiqué de Bombardier aux employés. Savez-vous ce que le communiqué dit? Il est possible que certaines informations personnelles se retrouvent sur le Dark Web. Fait que la première part que tu te dis, toi, en tant qu'employé de chez Bombardier, qui vise la même vis depuis 15 ans, c'est quoi? Je vais checker mon compte, puis je vais faire attention à mon courriel, peut-être. C'est ces deux choses-là que tu vas penser. Tu vas penser à ton identité, t'activer une protection de crédit sur Equifax, puis peut-être t'activer une protection sur TransUnion, si tu connais un beau-frère en informatique qui va te le recommander. Peut-être. Mais tu vas-tu vraiment penser d'aller changer ton mot de passe de Pornhub puis Netflix? Non, parce que pour toi, c'est pas une information nécessairement privée. Tu vas penser que c'est tes coordonnées. Au final, Bombardier, ils se protègent, comme Air Canada. Ils disent pas qu'est-ce qui est disponible sur le Dark Web, mais pourtant, c'est super facile d'aller voir. On va aller chercher les plans. Fait que si jamais vous devenez compétiteur à Bombardier, c'est le temps. Fait que, allez les downloader, partez-vous une compagnie. Ça va me faire plaisir de vous encourager, surtout s'il y a une version électrique. Le PIP, le plus populaire, la grosse affaire présentement au monde, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'Akira prend un peu de popularité dans les dernières semaines à cause de l'affaire de Cisco AnyConnect, Logbit annuellement reste quand même le plus gros. Ça, c'est daté d'il y a quelques semaines. Ce que j'aime de Logbit, c'est l'interface du site web. Elle est vraiment belle. Donc, vert, les données sont publiées, c'est assez clair. Rouge, on est en train de négocier pour la rançon. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que vous pouvez voir le nombre de vues des téléchargements des données, soit exemple ou des données totales de l'entreprise. Fait que Millennium.pro, à cette époque-là, je pense que ça datait du mois de février ou fin janvier, il avait été vu 3011 fois les données de Millennium.pro. Chose qu'on n'a pas chez Avast Locker. Donc, si vous choisissez ce groupe-là pour travailler avec, il est vraiment le fun sur l'interface. Puis, je trouve aussi que le site, il load pas mal plus vite que celui d'Avast Locker.
Mon côté féminin apprécie la belle interface.
Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, vraiment beau. Si vous payez la rançon, naturellement, vous allez disparaître du site. Fait que je ne sais pas si j'ai des potins. Westmount n'a jamais payé la rançon. Jamais payé la rançon, mais ils ne sont plus sur le site. Fait que ça, c'est le fun, si tu peux savoir si c'est bullshit là, en même temps. Fait que c'est un peu ça. OK, on va prendre un cas d'une entreprise. Si vous voulez rester niveau script kiddie, ni vous associer à Logbit, ni vous associer à BossLocker, vous voulez juste être un script kiddie dans votre sol et être indépendant et autonome. Pas grave, les groupes de hackers, ils n'ont pas le temps de hacker la planète. Fait qu'ils vous rendent disponible directement sur le site à vous, script kiddie, la totalité des accès que vous avez besoin pour faire votre travail. Qu'est-ce que tu veux dire, Simon? On va prendre un exemple. YG Boulon, une entreprise de chez Goutimi que je présente souvent. Dans le fond, les données ont été publiées. Pourquoi? Ben, ils n'ont pas payé la rançon, puis non seulement ça, ils ont formaté l'entièreté du parc informatique, puis le gars de TI a ramené le backup. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de payer la rançon. Fait que super, la vie est belle. Sauf que, naturellement, toutes les informations privées de l'organisation se retrouvent sur le Dark Web, sauf que la totalité des données aussi. Ce qui est fort de Logbit, toujours dans l'interface, on n'est pas obligé de télécharger les données, c'est un File Explorer. Fait qu'on clique direct, c'est les liens, puis on ouvre les fichiers. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, mais dans le milieu, c'est écrit mot de passe googlechrome.csv. Wow. C'est cool. Fait que là, tu te dis, le gars était victime d'un cybercrime majeur, il y a des exfiltrations d'informations privées sur le Dark Web. OK, il a ramené son parc informatique, mais sûrement qu'il a changé son mot de passe, right?
Non!
Fait que les mots de passe qui sont là présentement à l'écran, vous pouvez tous les essayer live, ils fonctionnent tous. Fait que je suis en script kiddie, vous savez quoi faire? En sortant de la pièce, vous avez du temps, allez là, Logbit, YG Boulon. Hein? Non, c'est ça, mais va prendre les données de son compte, puis faites état des transferts, des choses de même pour avoir du fun.
Faites-toi du fun!
Comme expliqué dans le fond, Audrey, tantôt, version un petit peu plus claire, Si vous voulez devenir membre d'un groupe et non pas ScriptKD, donc vous avez le choix de devenir ScriptKD, prendre les informations des groupes, les utiliser contre les clients, ou sinon vous pouvez vous abonner ici. Le courriel pour Abos, la deuxième après le B, c'est abos@strong.pm. Je vais juste donner plus de détails sur qu'est-ce qu'il offre comme solution et support. On l'a dit tantôt, ils vous aident pour dormir la nuit, mais ils vous aident aussi dans les négociations. Puis une chose que je veux que vous sachiez, ils vont laver votre argent. Fait qu'ils vont mettre des mules pour faire en sorte de protéger votre Bitcoin Wallet pour qu'il soit irrétraçable. Et en plus de ça, le panneau de contrôle 24 heures sur 24, et si jamais vous ne connaissez rien aux technologies de l'information, il y a une équipe de formation dédiée à onboarder des nouveaux hackers dans tous les groupes que je vous présente aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire le saut, faites-le, c'est le temps. Abos, Lockbit, très payant. Je connais des gens qui font des millions de dollars par mois. Comme a expliqué Audrey, c'est 20% du upsell, sauf que Lockbit a des valeurs, il ne faut pas attaquer les hôpitaux pour enfants. Ils l'ont fait par accident. Mais c'est pas grave, ils ont donné la clé gratuitement après. Fait que c'est pour ça que Lockbit a des valeurs. Fait que si ça vous tente d'onboarder sur Lockbit ou vous avez des valeurs, allez-y fort. Présentement, on a un enjeu. Les Jedi nous mettent des bâtons dans les roues, pas mal. Parce qu'ils considèrent maintenant, quand on impacte un parc informatique, une scène de crime. Ils coupent naturellement l'accès réseau, donc nous, on ne peut plus savoir ce qui se passe dans l'environnement et dans l'infrastructure. Ça nous fait chier réellement, parce qu'on ne peut même pas les écouter comme on faisait avant. La plupart des gens laissaient les fils réseau actifs quand on avait un cybercrime, fait qu'on pouvait les écouter sur les micros des laptops, mais là, à ce temps, ils sont rendus intelligents au Québec, ils ont décidé de tirer à bloc puis d'isoler le réseau complètement. C'est quelque chose qui se passe présentement dans la plupart des cybercrimes que j'ai participé dedans. Ils créent un environnement jaune totalement parallèle où ce qui crée un nouveau parc informatique, met des nouveaux laptops, réinitialise les switches et les routeurs temporairement pour partir les opérations, faire en sorte que les gens les payent. Puis là, ça me fait chier, parce que dans ce réseau jaune-là, naturellement, ils ont changé tous les mots de passe, fait que j'ai pas d'accès, puis je peux pas rentrer à distance. Puis là, ils ont tellement peur qu'ils ont pas de any dans leur routeur comme il y avait avant, puis ils ouvrent pas des ports publics non plus. Fait que là, ça, ils font chier en tabarouette. Puis en plus de ça, à la fin de ça, ils font créer un réseau vert qui est 100% sécuritaire, qui a un MDR, un EDR. Puis l'enquête, la firme d'enquête, qu'est-ce qu'ils vont avoir analysé tout le réseau rouge pendant des mois, va arriver avec un stack de solutions dans le réseau vert qui va faire en sorte que c'est impossible de pénétrer. Fait que finalement, il ne vous reste qu'une chose à faire après une attaque d'un client, si jamais vous attaquez un client au Québec, c'est simple, attaquer les individus sur lesquels vous avez collecté dans votre keylog les logins et les mots de passe. Donc la deuxième vague d'attaque n'est pas jamais ciblée sur l'entreprise à cause qu'ils utilisent ça, mais ciblée sur les êtres humains et les employés. Ils se sont mis pas mal de structures au niveau du Québec contre nous. Premièrement, les technologies de l'information se travaillent à formater les postes, à réinitialiser les switches, les routeurs, mettre la meilleure pratique en CyberSécu que CyberSécu va nous avoir donné comme conseil d'appliquer en fonction de l'enquête qu'ils vont avoir faite. Donc, ils travaillent en collaboration avec la cybersécurité vraiment étroitement. Plus qu'avant, c'est rendu vraiment une bonne équipe. Chose qui est fatigante pour nous autres, les méchants. Parce que là, à cette heure, il y en a un qui check ce que l'autre fait, puis ils travaillent ensemble. Ça, c'est poche. Parce que là, ils s'en viennent une bonne équipe. Sinon, ils travaillent avec des firmes d'avocats aussi pour faire en sorte de mitiger le risque médiatique. Ça, c'est chiant en tabarouette. Parce que nous autres, quand on publie les données sur le dark web, on aime ça que ça fasse de la chenoute, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on se fasse payer notre rançon. Mais les avocats sont en train de mitiger ça aussi au niveau légal. Fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu dur de demander une rançon. Puis à date, mon taux de closing est à peu près à 10% sur mes rançons quand je hack une business. Sinon, ils ont même des assurances. Avant, on avait une perte opérationnelle qui pouvait faire en sorte de nous payer la rançon. Mais là, les assurances sont en train de couvrir les pertes opérationnelles sur les business dans le cadre d'un cybercrime. Fait chier. Puis là, en plus, la division cybercrime de la Sûreté du Québec est rendue avec plus d'agents maintenant et surveille en temps réel le dark web et l'exposition des données. Fait que là, ils sont rendus pas mal fatigants là, au Québec à mettre tout en place des lois, des gens disponibles, puis que l'industrie travaille ensemble. Ça devrait me faire chier, mais c'est encore payant, je vous le dis, sinon je le ferai pas.
Donc, derrière les nuages, on trouve toujours le soleil, sans parler du cloud, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Aujourd'hui, gens dans la salle, vous avez un choix à faire. Êtes-vous Jedi ou êtes-vous Sith?
Levez la main ceux qui veulent être Jedi pour le fun. OK, il y en a juste 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Fait que vous avez décidé d'être pauvre? Effectivement. Fait qu'on va faire notre coming out. On a aussi choisi. On est des Jedi.
On est Jedi.
Fait qu'au final, on n'est pas des Sith. On faisait ça pour Hackfest. Vous le savez, c'est le côté noir. Moi, je pense des congrès en technologie de l'information. Je suis vraiment un Jedi moi-même. Ah, j'ai oublié de changer ma couleur. Shit.
Wannabe Jedi.
Ouais. Je vais le faire. C'est trop important. Fait qu'au final, les 44 cybercrimes qu'on a réalisés chez Groupe ISM depuis l'incident 2017, c'était des cybercrimes qui ont touché des organisations au Québec avec des groupes de hackers publics. Ça a tout le temps été ça qu'on a aidé dedans, parce qu'on était une des premières victimes à l'époque. Puis, je peux juste vous dire un message. Vous savez qu'on avait 50 000 accès à resetter en une courte période de temps. Savez-vous comment on a réussi à resetter 50 000 accès en peu de temps pour sécuriser la totalité des clients d'ISM? C'est grâce aux gens dans cette salle. C'est des gens qui étaient dans l'industrie des TI, qui ne travaillaient pas chez Groupe ISM, qui sont venus nous aider. C'est ça qui est vraiment cool. Je ne sais pas si c'est partout de même ou dans le monde, mais au Québec, quand tu es dans la merde, le monde le comprend. L'industrie des TI a sauvé Groupe ISM, ses clients. Dans nos clients, on avait la Sûreté du Québec. Dans nos clients, on avait des cliniques médicales. Puis, c'est des gens comme Éric Tellier, que je me rappelle, qui est venu nous aider. Des compétiteurs, carrément, qui sont venus nous aider à nous épauler dans notre stratégie de gestion. Puis, naturellement, je vais le dire, la gang d'ISM n'a pas dormi pendant des semaines. Il y a quelqu'un qui est dans la salle ici qui n'a pas dormi pendant cette couple de semaines-là aussi, puis qui a fait partie de l'exercice à resetter les reports, à sécuriser ISM. Merci beaucoup, David, d'avoir été là pour sauver ISM. Fait que c'est un peu ça. Moi, je suis Simon David. Je suis un Jedi et non pas un Sith. Faites le choix d'être Sith. C'est une bonne chose. C'est pour l'honneur.
Et moi, Audrey Chang, propriétaire de Blue Eden à Belleuil. Donc, une très grosse compagnie de 6 employés, mais on a du cœur au ventre. Comme je l'ai dit, la bonne femme, ça fait 16 ans qu'elle est en TI. Il y a même des gens ici qui m'ont déjà enseigné. J'essaierai de ne pas spoiler qui. Donc, on est beaucoup dans le B2B et dans le H2H, parce qu'on a beau dire qu'on parle de ISM, de Blue Eden, n'importe quelle compagnie TI ou cyber, c'est une business d'humain. Vous le savez, on a beau installer toutes les firewalls, les bébelles possibles et imaginables de cyber, ça prend juste un user qui clique sur un lien parce qu'il voulait avoir son hostique de carte cadeau de 15$ Amazon. Fait que c'est une business d'humain, donc faut tout ce qui a trait à la sensibilisation, faut mettre ça un peu plus de l'avant. Quand on fait le show, généralement, Simon et moi, moi je suis le hacker, j'ai un masque de Casa de Papel, je me surnomme Black Rabbit, donc si vous voyez passer ça sur les réseaux, Black Rabbit, spoiler alert, c'est moi. Puis sinon, vous avez compris que je suis un Jedi, fan de Jackie Chan, Android, puis Windows au travail.
Cool. Fait que l'histoire se finit bien. ISM est encore en vie. On a rattrapé, grâce à l'industrie des TI, le reset de tous ces accès-là. Mais j'ai un autre potin à vous dire. C'est que dans le cadre des cybercrimes, j'ai dit tantôt, la division cybercrime, quand on voit une adresse IP du Dark Web, elle se fait pas justice. Mais on s'est réussi à se faire justice grâce à la Sûreté du Québec, en collaboration avec l'Ontario Police Patrol. Il y a un hacker qui s'est connecté à une infrastructure à distance et on a réussi à capturer une adresse IP à 3h30 du matin qui venait d'Ontario. Parce qu'il n'y avait pas passé par le Dark Web, il avait passé direct. Donc, je suis fier de vous dire qu'au Québec, on a participé à l'arrestation d'une seule personne du groupe Lockbit. C'est quand même hot. Qui est maintenant en prison grâce à ce cybercrime-là. Et la victime était une entreprise québécoise. Juste pour vous dire vite, il avait payé la rançon. Là, je vous dis le potin. Ils ont payé la rançon. Fait qu'on a dit, crime, si la police va là, ils vont dire, ils ne trouveront pas les données, tu sais. Parce que quand tu payes la rançon, d'habitude, ils effacent les données. Ils avaient effectivement effacé les données, mais ce qu'ils n'avaient pas effacé, savez-vous, c'est quoi? Les 6 mois de keylogger. Fait qu'ils m'ont envoyé les 6 mois de keylogger. Ils disent, Simon, c'est tes users et tes mots de passe que tu avais, ça? C'est ben ouais, c'est comme ça qu'il est en prison. Fait que, aussi simple que ça, l'erreur est humaine, ça arrive. C'est toi ou c'est moi, celle-là? C'est toi, je pense.
Non, mais t'as oublié de coller à la shot, de dire, on le fait solide, vous n'avez arrêté un.
Ah ouais, on le fait, merci.
On le fait. Fait que si t'es pas game d'aller sur le dark web, t'es un peu chicken, t'es un peu moumoune, je te juge pas. Il y a d'autres outils pour pouvoir aller pouler ce qu'on trouve sur le dark web. Tu peux aller voir les dernières publications sur ransomlook.io, donc voir les dernières publications. Puis sinon, il y a d'autres outils que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, comme du Dark Web Agent, I Have Been Found au niveau des infos publiques. Et vous pouvez aussi rent a hacker. Donc, quand tu vas, tu as la possibilité que si tu veux pas faire la job de marde, on se le cachera pas, tu veux pas te mettre dans l'eau chaude, ben tu peux embaucher un hacker, puis c'est quand même pas si cher selon la job que tu vas y donner.
En passant, il y a 8 cybercrimes actifs au Québec. Comment je le sais, vous pensez? Ransomlook.io. Tous les matins, je suis connecté dans Recent, puis c'est là que je les vois. Puis c'est aussi une façon pour moi d'aider ces entreprises-là, comme Jedi, en proposant mes services. Fait que j'ai l'expérience pour le faire. Puis vous aussi, vous pouvez le faire, parce que ça peut être payant, intéressant, et vous allez changer le monde, et surtout le sauver.
Donc nous autres, le soir, on va pas sur Pornhub, on va sur le Dark Web ou sur Ransomlook.io.
Comme hier soir, vraiment hier soir.
Exact.
C'est là qu'on a pogné Air Canada, c'était cool. Fait que si jamais vous voulez la présentation, vous avez juste à scanner le code QR, vous m'envoyez un petit message, je fais copier-coller, vous avez accès en PDF à la présentation. Tous les liens sont dedans, dans les notes. Il y a le lien pour downloader ton web browser si vous voulez. Vraiment toutes les ressources. Si vous avez des questions sur le Dark Web, moi, Audrey, on est disponible, hein, Audrey?
Absolument.
On est là pour supporter le Dark Web pour que vous puissiez atteindre le niveau de compétences que vous souhaitez ou ce que vous cherchez des fois. Des fois, Simon, as-tu des données sur telle personne, des façons détournées de chercher aussi dans Telegram? C'est vraiment ça qu'on fait que ça va me faire plaisir de vous aider. Fait que sur ce, je te laisse le mot de la fin, ma chère.
Ben merci de votre écoute, merci de votre participation et choisissez votre cas.